RMC, 15h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 7ème étape du Tour de France, aujourd'hui entre l'île Jourdain et le lac de Payolle, le Tour de France entre dans les Pyrénées. Il va rester jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche soir, avec deux étapes clés, demain et surtout après-demain, avec la montée vers Andorre-Arcalis, où l'on assistera sans doute à une grande bataille, grande bagarre pour le classement général. Peut-être dès aujourd'hui d'ailleurs, dans la montée du col d'Aspin, dont les coureurs se rapprochent petit à petit, Fred, puisque nous sommes à 41 km de l'arrivée. On fait un top course tout de suite.
La tête de course à l'entrée de l'Abarthe de Nest, bientôt le début du col bas d'Aspin. Effectivement, ce sera dans une grosse vingtaine de kilomètres maintenant, le début de ce col de première catégorie. On est à 41 km de l'arrivée et devant, ça bouge. L'avance des 29 hommes de tête n'est plus que de 3 minutes 45 sur le peloton. Trois échappés viennent de s'extraire de ce groupe de tête. Il s'agit du Canadien de l'équipe Direct Énergie Antoine Duchesne, le Danois Mathis Breschel chez Cannondale et Dani Navarro, l'Espagnol, le leader désigné pour le classement général chez Cofidis. Ces trois-là comptent une dizaine de secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée. Ça réagit, évidemment. On a compris que ce serait dur de résister au retour du peloton, toujours emmené par les Sky et les Movistar.
Le duo, notre couple préféré sur les routes du Tour, c'est évident Marc Combes qui pilote la moto, et derrière lui Georges Quirino, qui n'avait pas assez de pages sur son petit carnet tout à l'heure pour noter tous les noms des échappés. Est-ce que ça y est, tu les as tous en tête, Georges, maintenant les échappés?
Ah là, c'est ça va être difficile de suivre ce qui se passe exactement dans un second hôtel, parce que c'est complètement désorganisé désormais, avec les trois coureurs qui ont réussi à s'extraire juste après le passage de la côte de Cap-Vert. Donc Breschel, Duchesne et Navarro. Antoine Duchesne, le Canadien qu'on avait vu quelques minutes avant son attaque, demander à la moto médicale de venir à son niveau pour prendre un petit cachet. On avait des doutes du coup sur l'état physique du Canadien. Et bien non, il a accéléré après donc cette ascension, où on a vu notamment Vasil Kirienka, le coureur biélorusse de la formation Sky, se décrocher complètement. Il a laissé tomber pour attendre le peloton et peut-être certainement aider Christopher Froome tout à l'heure dans l'ascension d'Aspin. Donc il n'y a plus de Sky à l'avant de ce groupe, et donc la côte de Cap-Vert qu'on a passée il y a quelques instants, où un certain Vincenzo Nibali est passé en tête pour prendre un tout petit point. Mais est-ce que c'est un tout petit point qui signifie que le maillot à poids peut être un objectif pour lui? C'est une question qu'on peut peut-être se poser pour le requin de Messi. Dans tous les cas, on est toujours derrière ce groupe de tête.
Ah oui, sait-on jamais, le maillot à poids pour Vincenzo Nibali va te déshabiller, Jérôme, hein. On rappelle que tu portes le maillot à poids aujourd'hui sur les routes du Tour.
Ah, exactement, mais je crois que mes jours sont comptés en maillot à poids. Effectivement, il a pris les points, il a pris un point, mais ça n'est jamais anodin, hein. S'il a fait le petit sprint, le petit jump pour prendre ce point, c'est qu'il a éventuellement des ambitions pour ce maillot. En gagnant des étapes comme il sait bien le faire en montagne, il va forcément se rapprocher tout près, et c'est les premiers points peut-être d'une longue série pour Vincenzo Nibali, bien qu'aujourd'hui les points du col d'Aspin ne sont pas gagnés, parce que ça bouge beaucoup dans ce groupe, et j'ai l'impression que avec Kirienka qui va retourner dans le peloton, ça va encore accélérer un peu plus chez Sky, et on risque de se retrouver très vite sur les talons du groupe de tête dans le peloton.
Oui, en tout cas, l'attitude de Vincenzo Nibali en haut de cette côte de 4ème catégorie qui précède le col d'Aspin, on le rappelle, étaye peut-être l'hypothèse que Nibali n'a pas programmé d'abandon entre les Pyrénées et les Alpes, et qu'il compte bien aller jusqu'au bout de ce Tour de France. L'attitude qu'il avait adoptée dans l'étape du Lioran, c'est-à-dire se désintéresser totalement de la course et ne pas souffrir pour s'accrocher au meilleur.
Tu es debout, Marco ?
On entend Georges à l'antenne. N'est pas la bonne. Ça ne veut pas dire ce qu'il a réalisé vers le Lioran. Ça ne veut pas dire qu'il a programmé d'ores et déjà de quitter la course. Lui qui, on le rappelle, a remporté le Tour d'Italie à la fin du mois de mai, début juin. Et il sera bel et bien soit un équipier pour Fabio Aru, soit à la chasse de satisfaction personnelle.
Messieurs, avant d'ouvrir notre petite musette du jour, nous allons à nouveau partir pour Wimbledon, y retrouver Eric Salio pour la suite de la demi-finale, la première demi-finale du tournoi masculin qui oppose... que se passe-t-il là, Fred? Le maillot jaune qui tente de revenir sur les trois hommes de tête?
Oui, sur trois contre-attaquants en fait, puisque ce groupe de 28 coureurs est en train de se désorganiser totalement. On a passé la première difficulté difficulté du jour. Derrière le trio Duchesne, Navarro et Bréchel, effectivement, des contre-attaquants sont en train de sortir avec notamment Tony Martin, Alexis Villermoz et donc le maillot jaune Greg Van Avermaet.
Ouais, je vous le disais, on fait un tour à Wimbledon. Eric Salio pour la première demi-finale du tournoi masculin. Raonic opposé à Roger Federer qui va de mieux en mieux, Roger.
Oui, 2-7-1 désormais pour Roger Federer dans cette première demi-finale. On a quand même le sentiment que le Canadien a eu beaucoup de mal à digérer la perte de deuxième set avec notamment cette double faute crucial à 3 points partout dans le tie-break. Federer a pu breaker le Canadien dans la troisième manche. Il s'est donc imposé 6-4. Donc il mène désormais 2-1, 3-6, 7-6, 6-4, 1-0 dans le quatrième set pour le Canadien. Le tout sous les yeux de people assez connus. Hein, Sir Alex Ferguson, Monsieur Jude Law aussi. Hein, c'est vraiment battu pour avoir une place dans la Royal Box aujourd'hui parce que ce sont deux affiches fantastiques. On rappelle que tout à l'heure, on aura la deuxième demi entre l'Écossais Andy Murray et le Tchèque Thomas Berdych. Donc Federer est à 1-7, Christophe, d'une 11e finale ici à Wimbledon.
Ça serait fantastique. On va peut-être un jour arrêter de l'enterrer, Roger Federer, Eric. Ce serait pas mal parce qu'il nous surprend à chaque fois.
Là, bien,
on l'annonce terminé, on l'annonce près de la retraite, on l'annonce fini et puis le voilà de retour, tel le phénix qui renaît de ses cendres. À tout à l'heure, Eric. 35 km de l'arrivée pour cette 7e étape du Tour de France. On se rapproche des premiers lacets du col d'Aspin et on va en profiter rapidement pour ouvrir la musique. Musette du jour sur RMC dans l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour. Intégral Tour. La musette.
Et voilà, dans la musette, toutes les informations que nous ramènent nos reporters et tous les membres de la Dream Team. Qui veut commencer, messieurs? On vous rappelle que nous sommes donc passés tout à l'heure à Trie-sur-Baïse, qui, comme chacun le sait, est la contrée du cri de cochon.
Exactement. Spécialité.
Ah. Pierre-Yves, tu me fais
c'est Georges qui est en train de le faire.
C'est Georges. On connaît bien les cochons en Bretagne, Pierre-Yves.
Oui, c'est parfois un problème d'ailleurs.
Oui.
C'est parfois un problème.
Alors comment fais-tu le cri de cochon? Vas-y, tu vas être le premier.
C'était bien, là, je vous l'ai fait
non,
tout
non,
de suite.
Non, tu nous le refais tout de suite, le Bard, là, tout de suite, là.
Jérôme voulait commencer parce qu'il...
Ah, ça se défile. Ah. Il est bien. Il est pas mal, Pierre-Yves. Tu as donc obtenu...
Le cochon quelle mêlé tristesse. À la mouette, hein, quand même. C'est
on a les deux en Bretagne.
Un savant mélange.
Ça pose problème aussi.
On n'entend jamais l'un sans l'autre.
Au niveau génétique, ça fait de drôles de choses. Pierre-Yves, tu as donc obtenu le droit de t'exprimer, puisque chacun pourra s'exprimer après avoir fait le cri de cochon. Jérôme Pinault va s'entraîner. Pierre-Yves.
Mais je crois que dans les musettes, il va y avoir des anniversaires. Je commence avec un anniversaire, celui de... du manager général de l'équipe Direct Energy, puisque il a 60 ans aujourd'hui.
Jean-René
Bernodeau. Blaise Chauvière, qui fait partie de l'équipe, lui a souhaité à minuit une hier, mais il n'y a pas eu d'abus. Il y aura sans doute quelques festivités ce soir.
Ah, en revanche, Jérôme a d'autres informations au niveau des abus.
j'ai croisé Blaise ce matin et il me semble qu'il a fait un peu.
On ne peut pas tout dévoiler, c'est ça. En revanche, il y a un garçon qui ne pourra pas abusé, c'est certain, puisque depuis le mois d'octobre, il y a une nouvelle législation. Les chauffeurs de bus doivent souffler dans un éthylotest pour faire démarrer bus.
Ah oui.
Sinon, ils ne peuvent pas faire démarrer le bus. Donc, le chauffeur du bus de Direct Energy, comme les autres, évidemment, doit faire très attention pendant tout ce Tour de France. Lui, il doit être à zéro pendant toute la durée du tour.
Ouais, mais on va peut-être essayer d'instaurer les mêmes règles avec l'équipe RMC, monsieur Pinault.
La voiture démarre tous les
jours. Dans la famille Pinault, il y en a un qui souffle dans le ballon tous les jours et qui passe sans encombre. C'est ton frère.
Exactement.
Hein, qui conduit le bus de la BMC.
À l'étranger, hein, c'est pas la même législation à l'étranger.
Et toi, on va peut-être s'y mettre, hein, parce que le Jet 27,
pas de soucis. Il a déjà soufflé d'ailleurs.
Hier, c'était une soirée spéciale. J'ai déjà soufflé
à consommer avec
au départ de Limoges, on a soufflé.
Pas pour tout le monde.
Parce que même pour les suiveurs, de temps en temps, on est arrêté sur la route du tour et Jérôme a déjà
exactement.
Soufflé.
Très bien. Bah,
il était à zéro.
Il était à zéro.
Bien sûr.
Pour la première fois depuis le début du tour. C'est quand même incroyable.
Pourquoi me faites-vous passer, Christophe?
Cyril Guimard, lui, est toujours à zéro. Enfin, ça dépend des heures aussi. Hein. C'est un peu pareil. Il n'est pas toujours à zéro gramme. Cyril, ta musette, mais d'abord le cri du cochon. Toi aussi, tu es breton. Tu connais bien les cochons, évidemment. Non, c'est pas Cyril qui a fait ça. Non, c'est pas possible. Il ne le maîtrise pas aussi bien. Cyril, ta musette, que nous ramènes-tu de beau?
Eh bien, je vais vous ramener de beau une bonne nouvelle, d'ailleurs. Ça arrive. Oui, parce qu'on a appris il y a quelques jours que l'équipe Giant, qui est l'équipe de Warren Barguil, avait perdu un de ses partenaires. Alpecin, un shampoing. Alors effectivement, Alpecin se retire. Je pense qu'effectivement, avec la présence des casques, on ne voyait pas beaucoup les effets de ce shampoing. Et en fait, ils ont trouvé un remplaçant. Et en fait, ce remplaçant, c'est un tour opérateur. Et finalement, c'est peut-être bien pour cette équipe qui voyage beaucoup. C'est vrai que les équipes cyclistes sont tout le temps à l'hôtel. Donc, il y aura également pour ce nouveau partenaire une visualisation de son action importante.
Oui, une musette qu'on a pu lire dans la presse. Hein. C'est la dernière fois, Cyril, on sort le petit jaune.
Il fait du plagiat,
Cyril. Vite fait.
Mais oui, mais il va pas au village départ, il a pas toutes les infos. Fred, alors vas-y, toi, déjà le
cul de cochon. Je sais m'abstenir. Mais moi, je suis sur le cochon égorgé, en train de se faire égorger. Et là, ça n'a rien à voir. C'est parti. Baissez les niveaux, baissez les potards.
Mais non, c'est un dindon, ça. C'est pas un cochon.
C'est un hurleur.
Tu confonds tout, Fred. C'est pas possible. Ça n'était pas du tout un cochon. C'était un dindon. Il confond les animaux.
Sachant que le ridicule ne tue pas.
Tu connaissais bien la faune et la flore. Tu m'as complètement déçu, la Batman. C'est très, très moyen, ce cri de cochon. Ok. Qui a donc une musette? Jérôme, lui, il a
toujours... Moi, je ferai pas de cri de cochon.
Comment ça?
Je n'y arrive pas. J'ai déjà pas beaucoup de voix, alors.
Bon, on va t'aider. On va t'en balancer un petit comme ça.
Dans la musette, Ce matin, j'ai traîné dans les bus, près des bus, et vous savez, les coureurs utilisent toutes sortes de récupérations, et ce qui est le plus utilisé pour les coureurs juste après l'arrivée, c'est les bas de contention, les chaussettes de contention, et il y a quelques marques spécialisées et qui sont présentes sur le Tour de France. Et bien ce matin, j'ai assisté à une scène cocasse, puisque l'Allemand André Greipel, qui a des mollets, vous le savez, surdimensionnés, a dû être livré de ses bas, et ça n'y allait pas, donc on était en train de reprendre des côtes, et je pense qu'on va faire un bas spécial Greipel, parce que apparemment il y a un peu plus d'élasticité sur les siens que sur les autres, parce qu'il a des mollets énormes, et donc ça rentre pas
aussi, hein.
Grosse cuisse, gros mollet, mais on met que des chaussettes pour la récupération. Ça active le retour veineux, ça permet tout simplement d'éliminer les toxines encore un peu plus.
Depuis qu'il a arrêté la carrière, tu as arrêté les chaussettes aussi, toi?
Ouais, j'ai arrêté les chaussettes.
Tout arrêté.
Fred Adam aussi, hein. Comment le quinoa, il continue.
Ah, je continue le quinoa, mais c'est une passion, le quinoa.
Ça dépend des soirs. C'est pas tous les soirs non plus quinoa. Hein, Yann Pécheral, vous avez entendu sa douce voix. Notre devin, parce que lui, quand même, il sent le vélo, mais alors.
Le Nibali du Sud. Hein.
Le Nibali marseillais. Et un peu niçois aussi, quand même. Alors, mon petit Yann, quelle info nous as-tu ramené dans ta musette?
On va rester dans les anniversaires. Pas celui de Jean-René Bernodeau, mais hier soir on a traîné tard dans certains hôtels.
On a travaillé surtout.
Ouais, on a travaillé, c'est vrai, on a travaillé très tard avec
pendant que d'autres regardaient le match.
Exactement,
vous avez
pendant que d'autres buvaient du jet, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et nous étions donc dans un hôtel, un charmant hôtel vers Toulouse. Il y avait trois équipes qui étaient là, et notamment les Astana qui ont fait une fête.
C'était pas la Tronquière l'hôtel, hein,
Non, c'était pas l'hôtel du commerce de la Tronquière qui est
tourisme.
Tourisme. Et hôtel du tourisme, établissement de qualité. Hein. Non, là on est avec tout confort. Non, là on était dans un hôtel assez luxueux. Il y avait une grosse fiesta chez les Astana avec un anniversaire. C'était l'anniversaire des fils Vinokourov, qui sont deux jumeaux qui avaient 14 ans, et le cuisinier italien leur avait préparé un beau gâteau. Il y avait champagne, ça n'a pas duré très tard. Et les deux fils Vinokourov, c'était les seuls vraiment dans tout l'hôtel qui étaient les plus intéressés par le match de foot. Ils étaient à fond pour la France. Les deux gamins, deux jumeaux, 14
ans. Ils sont monégasques,
effectivement. C'est pour ça qu'ils étaient à fond pour la France, et ils étaient vraiment très heureux hier soir après le match.
Yann, Pierre-Yves, est-ce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont regardé le match hier soir? A priori, déjà ils en ont ras-le-bol quand on leur parle de foot, ça il faut le savoir, parce que c'est vrai que tous les jours nos reporters dont vous faites partie vont leur poser des questions. Alors pronostic sur le match, évidemment ils connaissent pas tous forcément bien le football, mais est-ce qu'ils ont regardé la demi-finale hier soir?
C'est partagé, certains adorent. On en a discuté ce matin avec Thomas Vauclair par exemple, qui est fan de foot. Brian Coquart également. Nous on était chez les Fortunéo, c'était un peu partagé. Ils regardaient le match devant un téléphone portable posé sur la table pendant qu'ils mangeaient, puisque les massages durent longtemps. Et ils étaient deux ou trois. Il y avait Brice Feillu, Armindo Fonseca.
Armindo Fonseca qui était certainement le plus passionné de tout ça, parce que lui aime beaucoup le foot. Il est par son papa et par sa maman portugais et français. Donc c'est vrai que pour lui, voilà, c'était passionnant de regarder ce match-là. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de passion au niveau des coureurs. Peut-être un petit peu plus de la part du staff. Après hier soir dans l'hôtel, en plus des Fortunéo, il y avait Astana et Movistar, voilà, de leur côté.
Aero Quintana par exemple.
Personne n'a regardé le match du côté à Paris.
Il a peut-être regardé la finale de la Copa América et encore, c'est pas sûr. En revanche, dimanche, il y a des choses de prévues, je crois, hein, pour la finale. Hein.
Bah, c'est ce qu'on nous a expliqué dans les équipes. Hein, c'est que voilà, nous on a essayé vraiment de voir le match dans les équipes. Alors on remercie Fortunéo de nous avoir ouvert les portes.
C'est les seuls à nous avoir ouvert les portes.
Effectivement. Par contre, pour dimanche, ça sera un petit peu mieux parce que tous les refus qui nous ont été donnés, il y avait une raison très simple. Aujourd'hui, il y a les Pyrénées. Alors que dimanche soir, d'abord c'est la finale et ensuite lundi, c'est une journée de repos. Donc ça sera plus ouvert et notamment chez Direct Energy où il y a un buffet qui est prévu et voilà, il risque d'y avoir plus de monde autour du match.
Et la prochaine fois, je pense qu'on demandera quand même aux joueurs de l'équipe de France de football la veille d'un match, la veille de la finale, ce qu'ils ont pensé de l'arrivée de l'étape du Tour de France.
C'est ce que nous disait Emmanuel Hubert hier. Il disait j'espère aussi qu'ils regardent le Tour de France un petit peu. Il y a toujours une forme de concurrence malgré tout entre le foot qui prend beaucoup de sponsors, beaucoup d'argent et le cyclisme qui est forcément un peu derrière.
Ouais, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose?
Toi, je voulais parler un peu de ce qui tient vraiment à cœur à Yann Pécheral ici présent depuis le départ, c'est-à-dire les transports Martinet. Parce que vous savez,
ils sont toujours là.
Et on est très inquiets. Et d'ailleurs, du côté de chez Martinet, on est content parce que la facture augmente. On a la pièce qui doit être réparée dans le bus de Tinkoff arrivera que demain d'Allemagne. On a prévu de lâcher le bus Martinet en milieu de semaine prochaine du côté de Tinkoff. Donc, on a Yann Pécheral ici présent qui est actionnaire chez Martinet, très heureux.
C'est tout récent.
Les actions sont montées quand même.
Là, ça pousse. Belle facture à venir.
Parfait. On va finir cette musette avec Georges Quirino sur la moto RMC. Georges, est-ce que tu as des petites infos à nous livrer, des petites infos croustillantes?
Oui, sur quelque chose que l'on a observé en course. Alors vous savez que tous les matins et après chaque arrivée d'étape, les commissaires de l'Union Cycliste Internationale sont avec leur petite tablette tactile pour essayer de trouver des moteurs dans les vélos des coureurs. Il y a plus de 700 contrôles, il me semble, qui ont déjà été réalisés par les commissaires de l'UCI. Par contre, quelque chose que l'on n'avait pas encore vu de nos yeux, on va dire, on vient de le voir aujourd'hui, c'est que derrière la moto de retransmission de télévision habituelle, il y a une autre moto, une moto verte avec à l'arrière un monsieur avec un survêtement de l'Union Cycliste Internationale qui est avec un petit boîtier qui ressemble à un appareil photo, qui est donc cette fameuse caméra thermique que l'on n'avait pas encore vue sur les routes du Tour. Voilà, il nous double à l'instant. Des fois on le voit s'arrêter, ce monsieur de l'Union Cycliste Internationale, s'arrêter et faire un petit plan de tout le groupe de tête des 29 qui étaient là pour voir avec sa caméra thermique s'il n'y a pas d'irrégularité. Et il est resté et il est toujours de temps en temps derrière ce groupe pour et bien certainement analyser les images à la fin de l'étape pour savoir si aucun coureur n'a de petit moteur caché dans le cadre de son vélo. Mais voilà, on parlait de parfois entre nous peut-être de fantasmes, parce que ça existe vraiment ces caméras thermiques. Ben oui, on les a vues, on la voit de nos yeux désormais.
Fred, ça marche comment d'ailleurs la technologie avec ces caméras? Il voit que le moyeu est plus chaud que le reste.
Oui, c'est la technique des infrarouges en fait, et c'est les sources de chaleur qui apparaissent de manière plus rouge. S'il y a une partie du vélo qui dessine une zone rouge sur les images infrarouges, ça veut dire que cette partie du vélo chauffe particulièrement. Alors évidemment, il y a comme sur tout vélo des zones de frottement, des zones où c'est naturellement rouge. Vous allez sur le pignon, évidemment la chaîne frotte contre les pignons et là ça active de la chaleur. La même chose sur les plateaux, dans le boîtier de pédalier, évidemment qu'il y a quelques frottements, même si le but du jeu en termes de mécanisme c'est d'être le plus huilé possible pour avoir la résistance la moins importante, évidemment. Est-ce que c'est efficace? Ça reste à démontrer. Est-ce que on n'est pas là dans l'ordre du fantasme? C'est à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que trop de précautions valent mieux que pas assez. Et pour se couvrir, peut-être, ou par souci d'efficacité, effectivement, l'UCI et les autorités antidopage ont mis en place ces caméras thermiques cette année. Ce qui est sûr, c'est que ça aura un effet dissuasif certain, quand les coureurs voient tourner autour d'eux un commissaire UCI avec une caméra, ils peuvent être certains que on s'occupe d'eux, on s'occupe de leur cas. Et il y a un excellent papier aujourd'hui dans l'IB sur la lutte antidopage, et c'est l'ancien journaliste Damien Ressio qui travaillait à l'équipe qui s'exprime sur les techniques de dopage chez les pros et chez les amateurs. Et c'est vrai que la dissuasion compte beaucoup, autant que la punition dans la lutte antidopage.
Merci. Oui, je voudrais apporter une petite précision. Les caméras thermiques ne sont pas l'œuvre de l'Union Cycliste Internationale.
On leur a un peu forcé la main, non, pour utiliser les caméras thermiques.
Non, parce que pour l'UCI, c'est seulement les tablettes.
Les scans.
Mais alors qui utilise les caméras thermiques?
Ce sont les autorités françaises.
D'accord. Ce n'est pas l'UCI.
Ce n'est pas l'UCI.
C'est le ministère.
Et qu'on a voulu croiser justement. Et s'il y a effectivement des sources de chaleur, on va aller voir le vélo aussitôt l'arrivée.
Et oui, parce que l'UCI ne reconnaît pas cette technologie. Elle vend
les tablettes, mais pas les caméras.
Ah, donc évidemment. Très bien.
C'est le ministère des Sports qui a mis ça en place.
Ministère des Sports, exactement. On rappelle que Thierry Braillard aujourd'hui est présent sur l'étape, le secrétaire d'État au sport qui était au départ de l'étape tout à l'heure. Fred, avant de s'arrêter quelques instants, nouveau point sur la course à 24 km de l'arrivée. Donc on s'approche à grands pas maintenant du col d'Aspin.
Oui, on avait trois hommes en tête à quelques encablures maintenant des premières pentes du col d'Aspin. On longe la Neste, la rivière qui mène de la Barthe de Neste jusqu'à Arreau, et puis on prendra à droite en épingle à cheveux pour 12 km d'ascension classé en première catégorie. Le col d'Aspin qui précède l'arrivée inédite au lac de Payolle, dans la descente ou presque de ce col d'Aspin. 23 km 500 à parcourir pour la tête de course. Changement de physionomie il y a quelques instants. Un seul homme a tenté de se faire la belle. Il s'appelle Stephen Cummings, il est britannique et porte le maillot de Dimension Data, vainqueur à Mende l'an passé. Avec lui, il y a 8 plus 3, 11 compagnons d'échappée, dont le maillot jaune Greg Van Avermaet et un Français, Pierre-Luc Périchon. Vincenzo Nibali est également dans cette contre-attaque à 10 secondes de Stephen Cummings. Le peloton, lui, est à 5 minutes, un peloton emmené par les Sky de Christopher Froome.
16h25 sur RMC, on revient dans un instant sur la route du Tour pour le plat de résistance de cette journée, le col d'Aspin, et ses 12 km d'ascension avant une longue descente sinueuse vers le lac de Payolle. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France aujourd'hui, c'est la 7e étape du Tour et nous sommes dans les Pyrénées. Rapidement atteintes ces Pyrénées après même pas une semaine de course. Avant de faire un point sur la course, on part à l'avant justement de cette course avec les hommes de tête et la moto RMC, Georges Quirino.
Juste devant l'homme de tête avec Stephen Cummings qui est juste derrière nous avec les poursuivants, le groupe maillot jaune un petit peu derrière. Stephen Cummings qui vient de débuter l'ascension de la grosse difficulté de la journée, le col d'Aspin classé en première catégorie, 12 km d'ascension à 6,5%. Vous voyez que ça klaxonne parce que la route est étroite et qu'il faut avancer. Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs dans cette première grande ascension pyrénéenne, et la grisaille qui a disparu, le soleil a fait son apparition pour cette première grande montée du Tour de France.
Merci Georges, avec Stephen Cummings. Donc on fait un point Fred sur les écarts car ils sont importants. Le peloton pointe à un peu plus de 5 minutes je crois. Hein.
Oui, 5 minutes pour le peloton, mais intercalé entre l'homme de tête et le peloton, il y a plusieurs groupes, des anciens compagnons d'échappée de Stephen Cummings à qui Cummings a donc faussé compagnie à l'approche du col d'Aspin. Il a en fait anticipé le premier col de première catégorie de ce Tour de France dans un groupe de 11 coureurs. On a Vincenzo Nibali, l'ancien vainqueur du Tour et de la Vuelta ainsi que du Giro, qui est en train à son tour d'attaquer le col d'Aspin et d'accélérer. Il prend la tête de ce groupe de contre-attaque où l'on trouve notamment le Français Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke, l'Allemand de Giant Alpecin, et le maillot jaune Greg Van Avermaet. Van Avermaet qui a du mal à recoller à l'accélération de Vincenzo Nibali. Nibali qui emmène dans sa roue, me semble-t-il, Alex Howes, le Britannique de l'équipe Cannondale, mais aussi David Dani Navarro, le Belge, l'Espagnol pardon, de la formation Cofidis, Daryl Impey et le maillot jaune sont dans la roue de l'Italien Vincenzo Nibali qui va tenter de revenir comme un boulet de canon sur Stephen Cummings. Le peloton est à 5 minutes, il n'a pas encore attaqué les premières pentes d'Aspin.
On va évidemment vous faire vivre en intégralité cette ascension du col d'Aspin, mais auparavant nous repartons à Wimbledon. Eric Salio, pour la suite de cette demi-finale entre Raonic et Federer qui tient toutes ses promesses.
Oui, 2h22 de match dans cette première demi-finale, 2-7-1 pour Roger Federer, 3-6, 7-6, 6-4. On est au cœur de la quatrième manche. Miloš Raonic fait la course en tête, il mène 4-3, mais il y a environ un quart d'heure, il a sauvé deux balles de break qui ressemblaient fort à des balles de match.
Ah oui, très très fort. Merci Eric, on revient vers toi dans quelques instants. Nous partons également à Amsterdam où se trouve Nicolas Jamin pour la suite des championnats d'Europe d'athlétisme avec Renaud Lavillény qui va entrer en lice dans quelques minutes. Salut Nicolas.
Salut Christophe, salut à tous. On va patienter un petit peu, c'est à 19h10 la finale du saut à la perche. Trois Français, Lavillény ultra favori, jamais battu dans un euro, trois médailles d'or déjà tous les deux ans dans un championnat d'Europe. Ménaldo bronzé à Zurich, un Français encore, et puis un troisième Français qui rêve lui aussi de podium, c'est Stanley Joseph. 19h10, on suivra également Milena Robert Michon, peut-être au lancer du marteau pour une médaille attendue. On suivra également la finale du 400 mètres féminin, Floria Gay, son beau sourire et sa vitesse peut-être pour un podium. Et puis également à 21h25, le bouquet final, 3000 mètres steeple, un homme qu'on attend avec impatience, Mayedine Mekissi Benabad et un autre champion d'Europe en titre, Johan Koval, deux Français. Si on optimise 6 médailles aujourd'hui, si on est pessimiste, 2 médailles pour l'équipe de France. Il faut réagir après l'énorme déception hier de Jimmy Vico sur 100 mètres.
On nous expliquait pourquoi il allait gagner, mais il n'a pas gagné finalement. Troisième seulement. Merci.
Le mental, Christophe. Mental.
Il va falloir en avoir du mental aux Jeux Olympiques dans quelques semaines. Merci Nicolas. On te retrouve évidemment
c'est
tout au long de la soirée.
Hein. Nico sera à Rio. On lui demande d'avoir du mental également.
Mais il a du mental, Nico. Il aurait pu être champion s'il avait voulu. Mais bon, il n'a pas voulu.
C'est un champion.
Allez, à plus tard, Nicolas. 16 km 800 de l'arrivée. Un petit point rapide. Et ensuite, on va parier, Fred.
Avec Stephen Cummings, le Britannique expérimenté coureur de la Diamond Shundata qui est dans les premiers kilomètres d'ascension du col d'Aspin, seul en tête avec 25 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque à 17 km de l'arrivée. Dans ce groupe de contre-attaque, on a le maillot jaune Greg Van Avermaet qui s'était glissé dans l'échappée matinale au départ de l'île Jourdain. Également présent dans ce groupe d'échappée, Pierre-Luc Perrichon qui a sauté me semble-t-il, Daryl Impey, Alex Howes, Dani Navarro. Mais c'est bien Vincenzo Nibali qui mène grand train dans ce groupe de contre-attaque. Nibali qui est en train de revenir petit à petit sur Stephen Cummings, l'homme de tête. Le peloton à 4 minutes 45 qui attaque en ce moment le col d'Aspin classé en première catégorie.
Allez, on parie tout de suite à l'entame de ce col d'Aspin.
PMU.fr, Paris sportif, Paris éthique, poker.
Et on accueille Benoît Boutron aujourd'hui. Ben oui, Benji a dû fêter un peu trop la victoire de l'équipe de France hier soir. Salut Benoît.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors, les codes pour la victoire dans cette septième étape, quelles sont-elles?
Eh bien, figure-toi que c'est Vincenzo Nibali qui est passé grand favori de cette étape. 4,50 pour l'Italien. Cummings est à 5,40. Valverde ensuite à 6,75. Navarro à 9,50. Vous le savez, il n'y a pas eu d'émission hier. Mais sur amcsport.fr, il y avait vos pronos, messieurs. Cyril Guimard avait joué Fabio Aru. Jérôme Pinot avait joué Backlands à 28, énorme cote. Toi Christophe et toi Fred, ouais, également, t'avais joué Valverde.
J'ai été perturbé par Fred Adam. Je voulais jouer Nibali, il m'a dit que c'était pas bon.
Avec Bourgui, on a joué Nibali. Il était à 28 ce matin. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un super descendeur et il peut revenir sur Cummings dans ce col d'Aspin. Bah, moi je vais rester sur Nibali. Hein. 4,50,
oui,
c'est pas
évidemment,
mal.
Évidemment, c'est pas mal. 4,50. Nibali, tu en fais ton favori, Jérôme, désormais, maintenant qu'on sait que Valverde est à 5 minutes derrière.
Avec la tournure que prennent les événements, oui, je pense que Nibali est pour moi le favori de l'étape, mais attention à Stephen Cummings hein, qui s'est imposé la semaine dernière sur une étape du Dauphiné libéré au terme d'un grand numéro aussi. Attention à lui parce qu'il sait grimper aussi l'anglais de l'équipe d'Amon Shandata.
Cyril, Nibali grand favori pour toi également à ce niveau de l'étape. Cyril? Bon, Cyril peut-être plus tard, on verra tout à l'heure. Fred, Nibali?
Non. Valverde.
Ouais.
6,75 Valverde.
Allez, Valverde.
Très bien. Merci Benoît. On se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour les paris.
PMU.fr, Paris sportif, Paris épique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le col d'Aspin, tous les coureurs du peloton du Tour de France 2016 y sont entrés il y a quelques minutes. On va faire un point complet dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite. Fred Adam. Salon va nous va tout nous dire sur les 16 derniers kilomètres, puisque la situation est assez confuse, non, assez clair finalement.
Ça y est, elle est clarifiée, la situation qui effectivement était un brin confuse avec ses 29 échappés presque matinaux. L'étape est courte, 162 km 500 aujourd'hui entre l'île Jourdain et le lac de Payolle dans la descente du col d'Aspin. Il faudra bel et bien escalader ce mythique col classé en première catégorie. C'est la première journée dans les Pyrénées aujourd'hui et un homme est seul en tête à 15 km 500 de l'arrivée. On le connaît, il est britannique, Stephen Cummings, un trentenaire de l'équipe sud-africaine Dimension Data. Il avait remporté l'an passé au nez et à la barbe, on s'en souvient, de Thibaut Pinot et Romain Bardet à Mende là-haut sur l'aérodrome juste après l'ascension de la Croix-Neuve. Il avait remporté son étape, Stephen Cummings.
Au nez et à la barbe de Pinot et de Bardet, hein,
bien sûr,
un peu trop observé.
Coureur très expérimenté et très fin dans son analyse tactique. Il a un moteur qu'il a construit et rodé sur la piste, un moteur dans l'organisme, j'ai bien dit.
C'est un mot qu'on ne peut plus utiliser dans le cyclisme d'aujourd'hui.
Oui, mais les gros moteurs existeront toujours dans le peloton. Il y a les petits moteurs qui cassent vite et les gros moteurs qui sont capables d'enfiler les kilomètres d'échappée et qui prennent du coffre au fur et à mesure des étapes. C'est le propre des champions de s'améliorer au fil des jours. Un homme seul en tête, donc, après 3 kilomètres d'ascension dans ce col d'Aspin, long de 12 kilomètres, c'est Stephen Cummings. Derrière lui, en contre-attaque, on a Nibali, Darin Impey, Van Avermaet, le maillot jaune, et Dani Navarro. Et le peloton est à 4 minutes 35. On refait un point sur la course dans quelques instants. Sachez qu'à l'avant du peloton, absolument, les FDJ mènent grand train. Et c'est un autre Français, non pas Thibaut Pinot, qui vient d'accélérer dès le pied du col d'Aspin. C'est Warren Barguil, 6e du classement général. On en reparle tout de suite.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
La 7e étape du Tour de France, nous sommes dans le final de cette 7e étape dans l'ascension du col d'Aspin, 12 km avant le passage au col et ensuite la descente vers le lac de Payolle où sera jugée l'arrivée de cette étape. Il se passe des choses, Fred, on va faire un point complet de la situation, donc à 13 km 800 avec un seul homme en tête.
Avec effectivement le Britannique Stephen Cummings, vainqueur de l'étape de Mende l'année dernière, qui rôdait à la dernière place du peloton sur les premières étapes de ce Tour de France et qui s'est glissé dans la échappé. Aujourd'hui, il est dans le col d'Aspin après 4 km d'ascension et il compte une vingtaine de secondes, 25 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque, un trio emmené par Vincenzo Nibali, l'Italien, ancien vainqueur du Tour, qui est avec le Sud-Africain Daryl Impey et Dani Navarro. Le maillot jaune Greg Van Avermaet est également en contre-attaque. Le peloton, lui, est à 4 minutes 30, un peloton où le jeune Warren Barguil a attaqué tout à l'heure avant de rentrer dans le rang. Un peloton désormais non plus emmené par les Sky, mais bien par les FDJ de Thibaut Pinot.
Et oui, ils sont ambitieux, les coureurs de la formation FDJ, pour leur leader. Il a l'air de se sentir en grande forme aujourd'hui, Thibaut Pinot. On va en parler dans quelques instants. Auparavant, notre débat du jour, notre question du jour avec nos confrères du Parisien. Lionel Chamier est avec nous dans le petit camion. Salut Lionel.
Salut à tous.
Alors, on s'intéresse à ce maillot jaune porté depuis quelques jours par Van Avermaet. Et on se demandait aujourd'hui s'il allait pouvoir conserver ce maillot jaune, a priori, avec l'avance qu'il a prise tout à l'heure. Ça devrait le faire, Lionel. Mais alors, jusqu'à quand ce maillot jaune sur les épaules pour le Belge de la BMC?
Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui il va le garder. Il est vraisemblable que je parle sous le contrôle des spécialistes, mais il est vraisemblable qu'il a une chance de le garder demain. Voilà, mais assurément
demain soir, non.
Demain soir.
Demain matin plutôt, avant les
gars. Toute la journée de demain. Et peut-être demain soir pour une misère. Et puis de toute façon, voilà, il le perdra dimanche au soir. Voilà, quand les hostilités vont commencer.
Demain il y a effectivement Tourmalet, Ourcade dans 6 ans, Col d'Azay
et
il y a
Perresourde
avant l'arrivée à Bagnères-de-Luchon. Ce non grimpeur qu'est Greg Van Avermaet, spécialiste des classiques flamandes à l'origine quand même, a peut-être moyen de nous bluffer, mais ce serait une vraie surprise.
Jérôme, il risque de payer en plus l'échappée d'aujourd'hui demain, non?
Ouais, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il fait beaucoup d'efforts, là il se bat, il va conserver son maillot jaune selon toute vraisemblance, mais demain, c'est beaucoup trop dur. Dans le Tourmalet, on peut perdre entre 10 et 15 minutes hein, quand on est vite en difficulté. Et puis le menu de demain est quand même difficile, puisque on le rappelle, la Orquette dans 6 ans est un col, allez, on va dire roulant, mais attention, derrière il y a le col du Val-Louron-Azé avec des pourcentages toujours entre 8 et 12%. Et là, pour Greg Van Amermaart, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, il aura défendu de fort belle manière son maillot. La meilleure défense est l'attaque. Et aujourd'hui, Greg Van Avermaet, il est à l'attaque.
Alors, qui sera maillot jaune dimanche soir au sortir des Alpes? On va demander à Cyril Guimard, qui adore faire ce genre de pronostic. Cyril.
Écoutez,
on verra.
On verra, hein, parce que la route est longue, il y a beaucoup de cols. Est-ce que Froome fera les écarts? Est-ce que Harou va attaquer? Est-ce que Bardet ou Pinot pourront à un moment ou un autre faire des différences? On ne le sait pas. Et puis c'est aussi bien de ne pas le savoir.
Mmh. Bon, juste un pronostic, vas-y, puisqu'on est dans les pronos RMC.
Logiquement, Froome. Allô?
Oui, on s'entend.
Vous êtes avec moi? Ah bon?
D'accord. Vas-y.
Oui, logiquement, Froome devrait avoir le maillot à la sortie des Pyrénées.
Ok, c'est le pronostic de Cyril. Lionel.
J'ai dit logiquement, hein, oui, j'ai pas fait un pronostic.
Ouais, moi, je pense comme Cyril, je pense que Froome, il aime rien tant que simplifier la tâche et poser les choses. S'il en a les moyens, il va faire en sorte de gagner, de prendre le maillot, voilà. Et mais il aura pas, voilà, rien ne sera fait.
On sait qu'il aime pas le rendre une fois qu'il l'a sur les épaules. Mon cher Jérôme.
Moi, je pense que Quintana, c'est
pareil.
Un jaune.
D'accord. Pareil. On est quasiment en Espagne avec l'arrivée à Andorre. On est sur le terrain des Movistar. Leur service course est historiquement basé à Pampelune. L'étape de demain en particulier.
Pour la Sanfermine, en plus, c'est un moment important pour eux.
Cet enchaînement de quatre cols très difficiles demain pourrait lui convenir. Et puis, l'arrivée à Andorre, on verra bien, mais ce sera un duel a priori. Froome, Quintana et Greg Van Avermaet devraient remiser ses rêves, ses
espoirs. Dès demain soir pour toi, hein.
A priori, ouais, oui. Ouais. A priori, il est pris en jaune demain soir.
Ok, nous verrons ça. On a hâte de voir ça. Et puis, on a hâte de voir également l'arrivée de cette septième étape, puisqu'on se rapproche de l'arrivée. Georges Quirino est sur la moto RMC au contact de l'homme de tête. Georges.
Oui, avec Stephen Cummings, l'homme de tête qui vient de voir la banderole des 5 derniers kilomètres dans cette ascension du col d'Aspin. Sous le soleil, il ne faiblit pas. Hein. Stephen Cummings, il fait une belle impression. Il a même accentué un petit peu son avance par rapport à ses poursuivants directs. Les trois premiers poursuivants avec Nibali, Impe et Dani Navarro qui travaillent ensemble. C'est pas seulement Nibali hein, qui emmène le groupe de poursuivants. On a vu Dani Navarro, l'Espagnol de la Cofidis qui prenait les gros relais dernièrement. Et on a vu derrière Greg Van Avermaet, le maillot jaune qui a complètement laissé tomber la poursuite, main sur les cocottes, relevé qui fait la montée à son rythme pour essayer de garder le plus d'énergie possible pour les 5 derniers kilomètres de cette ascension du col d'Aspin pour lui.
Merci Georges, on revient vers toi rapidement évidemment. Donc Stephen Cummings qui est bien parti pour aller chercher une victoire d'étape, Jérôme. Hein.
Oui, vraisemblablement il est parti l'anglais pour aller chercher son encore une victoire d'étape cette année sur le Tour. Il a gagné l'an dernier à Mende et là il est bien parti puisque il ne cesse depuis le début du col d'Aspin de creuser l'écart sur les trois poursuivants et on le voit à sa cadence. Il faiblit pas, il est toujours en cadence autour de 90-100 tours minute. C'est bon signe et c'est bien parti pour l'anglais Cummings.
Et toujours pas de bagarre dans le groupe non pas maillot jaune mais dans le groupe des favoris, toujours emmené par les coéquipiers de Thibaut Pinot de la formation FDJ. On se quitte quelques instants et on revient pour le final de cette étape. Nous sommes à 11 500 km de l'arrivée au lac de Payol, à tout de suite.